Et à 22h, vous avez rendez-vous donc avec le journal de la rédaction. Bonsoir Stanislas Vazak.
Bonsoir. Des tensions ce soir à Paris lors du rassemblement contre la loi sur la sécurité globale. Les policiers ont dispersé au canon à eau les derniers manifestants. Le reportage de Laura Dulieu dans un instant. Le deuxième confinement a moins d'impact sur l'économie française que le premier selon l'INSEE. Les commerces dits non essentiels se mobilisent pour rouvrir dès le 27 novembre. Dossier dans ce journal avec Margot Delpierre et notre invité William Queberlé, président du Conseil du commerce de France. Donald Trump retire la moitié des troupes américaines déployées en Irak et en Afghanistan. Le retrait doit intervenir 5 jours avant l'investiture de Joe Biden. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris contre la loi sur la sécurité globale, examinée au même moment à l'Assemblée. Elle répondait à l'appel des syndicats de journalistes et des associations de défense des droits de l'homme. L'objet de leur colère, l'article 24 qui pénalise la diffusion de l'image d'un policier ou d'un gendarme en intervention. Le texte prévoit 1 an de prison si cette diffusion vise à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier ou du gendarme. Une disposition inacceptable pour les manifestants qui y voient une atteinte à la liberté de la presse. Le reportage de Laura Dulieu.
C'est Ari Halimi, le président de la Ligue des droits de l'homme, l'un des organisateurs du rassemblement, qui souligne l'ironie de la situation.
C'est un peu une mise en abîme ce soir parce que vous avez des journalistes qui filment des journalistes en train de se rassembler pour la liberté de la presse. L'objet de cette loi, c'est d'empêcher le fonctionnement du journalisme et des vidéastes amateurs et empêcher les victimes de violences policières d'obtenir justice. Les policiers ne veulent pas être filmés parce qu'ils ne veulent pas être sous le regard et des journalistes et du contrôle citoyen.
Mais il n'y avait pas que des journalistes sur place. Plusieurs dizaines de gilets jaunes étaient aussi là. Quelques huées ont été entendues, notamment lors des prises de parole ou du rappel des consignes sanitaires par les organisateurs. Valentin est journaliste, reporter d'images, présent pour défendre son métier. Il regrette l'opposition entre journalistes et gilets jaunes.
Comme moi, je couvrais les violences policières, notamment lors des manifestations de gilets jaunes. Je n'avais pas l'impression d'être soutenu par eux quand je le faisais. Alors qu'eux, ils étaient bien contents qu'on le fasse, quoi.
À partir de 18h, la place Édouard Herriot se remplit massivement de manifestants jusqu'au boulevard Saint-Germain. Parmi eux, Marine, pas une grande habituée des manifestations, mais celle-ci est importante à ses yeux.
Déjà, les gens qui subissent les violences policières aujourd'hui, les seules preuves qui leur restent, c'est les vidéos. Et encore, ils ont du mal au tribunal à avoir gain de cause et tout ça. Donc si on leur supprime en plus les vidéos, les violences policières, elles resteront impunies.
Et les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants dans la soirée, non sans quelques échauffourées. Des gaz lacrymogènes et des canons à eau ont été utilisés.
Laura Dulieu, merci. En province, il y a eu aussi des rassemblements contre cette loi sur la sécurité globale. Ils étaient 1300 manifestants à Toulouse et environ 700 à Bordeaux. Le deuxième confinement a eu moins d'impact sur l'économie française que le premier. C'est le constat établi par l'INSEE qui table sur une baisse de 13% de l'activité économique en novembre. Le recul avait atteint les 30% en avril. Dans son point de conjoncture, l'INSEE étudie aussi le comportement des consommateurs. Et là encore, Margot Delpierre, il y a des différences notables entre le premier et le deuxième confinement.
Dès l'entrée en vigueur du premier confinement, la consommation des ménages a brutalement chuté de 30% par rapport à la même période l'an dernier. En novembre, la consommation recule aussi. L'INSEE prévoit une baisse de 15% par rapport au niveau d'avant-crise. Un peu plus de commerces sont ouverts maintenant. La vente à distance et les services de livraison se sont développés, mais ce n'est pas suffisant pour compenser toutes les pertes. Pour analyser les comportements des ménages, l'INSEE se base sur les transactions effectuées par carte bancaire et les données de caisse de plusieurs enseignes de la grande distribution. D'abord, il y a des similarités. Comme en avril, les dépenses les plus affectées sont celles en carburant, celles pour les achats dits non essentiels, les dépenses en hébergement, restauration, transport et loisirs, estime l'Institut. Mais l'INSEE remarque aussi des différences. À l'annonce du premier confinement, les consommateurs se sont rués dans les magasins alimentaires et sur le carburant, un phénomène beaucoup moins visible fin octobre. L'INSEE évoque une expérience acquise par les consommateurs qui ne s'inquiètent plus beaucoup des pénuries. Leurs craintes, ils l'ont compris, sont infondées. En revanche, la consommation de produits produits électroniques, notamment informatiques, se porte bien en ce moment et semble même supérieur à son niveau d'avant-crise. Une tendance qui s'explique peut-être par l'expansion du télétravail et la nécessité d'être équipé. Enfin, le reconfinement aurait provoqué une augmentation immédiate des transactions en ligne. Les ventes sur Internet sont plus dynamiques qu'au printemps. Elles semblent même avoir pris le relais des ventes physiques les premiers jours de novembre, et cela à l'approche de Noël.
Margot Delpierre, merci. Sur l'ensemble de l'année 2020, le recul du PIB français devrait être compris entre 9 et 10% selon l'INSEE, qui anticipe donc une récession plus importante que prévue au printemps dernier. Pour sortir de la crise au plus vite, les magasins dits non essentiels en appellent au gouvernement. Le Conseil du commerce de France regroupe 70% des 3,5 millions de salariés du secteur. Le CDCF a écrit à Emmanuel Macron pour demander une réouverture dès le 27 novembre, au jour du Black Friday, l'opération commerciale venue des États-Unis. Invité de ce journal, William Queberlé, président du Conseil du commerce de France. Bonsoir.
Bonsoir.
William Queberlé, cette ouverture le 27 novembre que vous réclamez, c'est vraiment une question de vie ou de mort, comme vous l'écrivez dans votre courrier au président?
Pour l'ensemble des magasins qui ont une activité saisonnière forte, c'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit le jouet par exemple, les stocks sont là, les factures sont à payer. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas d'ouverture sur le 27 novembre par exemple, clairement, n'ayant pas de chiffres sur le mois de novembre, beaucoup d'entreprises auront des difficultés financières qui peuvent les entraîner jusqu'à la fermeture définitive.
Pourquoi le 27 novembre? Parce que ça correspond au Black Friday?
Oui, il y a plusieurs raisons. Il y a la première, et surtout, nous, on aurait préféré ouvrir même avant, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Il y a le Black Friday, qui est, en termes de volume, la troisième semaine dans l'année, hein, c'est en termes de chiffres. Pour certains, par exemple, jouets, ça correspond au mois de février. Une semaine correspond au mois de février. Donc, clairement, c'est quelque chose de très important. Et en plus, ça permettra aux magasins de pouvoir participer au Black Friday et de ne pas laisser uniquement les ventes sur Internet se réaliser. Donc, c'est une question aussi d'équité entre les différents formats, les différentes sortes de commerce. Et puis, la troisième raison, c'est que ça peut permettre aussi de répartir le flux à l'approche des fêtes de fin d'année, au lieu de concentrer cela sur 3-4 semaines, de passer à 4-5 semaines. Ça permet de diluer un peu le flux des clients vers les magasins.
Et donc là, c'est un argument sanitaire que vous invoquez?
Ben oui, parce que on nous met, nous, souvent l'argument sanitaire. Alors c'est quelque chose qu'on comprend pas, parce que qu'on nous reproche ce genre de choses, parce que dès le 11 mai, nous avions travaillé sur des protocoles sanitaires que nous avions préparés pendant le premier confinement. Dès le 11 mai, nous avions demandé l'obligation des masques. Nous avions fait des protocoles où il y avait des jauges qui permettaient la distanciation physique. Donc, si vous voulez, on a du mal, et il n'y a pas eu de cluster à ce jour de démontrer dans nos commerces.
Tout de même, William Queberlé, le nombre de contaminations diminue aujourd'hui en France, mais le pays déplore chaque jour des centaines de morts du coronavirus. Est-ce que vous n'êtes pas aussi obligé de tenir compte de cette réalité sanitaire?
Nous en tenons compte, mais à plus haute valeur, c'est que les commerçants sont dans leurs magasins avec leurs équipes. Et les protocoles sanitaires qui ont été réalisés sont aujourd'hui ceux qui ont démontré que les risques n'étaient pas dans les magasins. Bien sûr que nous en tenons compte. Nous sommes responsables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans un magasin la possibilité d'avoir une personne, deux personnes sur 4 mètres carrés, si vous voulez. Donc cette distanciation physique est bien réelle.
Et s'il fallait encore renforcer le protocole sanitaire, vous seriez prêt à l'accepter?
On a travaillé avec Bercy là-dessus. Je veux dire qu'il est clair que s'il faut passer de 4 en allant un peu plus loin, voire beaucoup de nous, plusieurs fédérations sont prêtes à aller jusque 8. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jauge est à 4 mètres carrés. C'est-à-dire quand vous avez un magasin qui aujourd'hui fait 40 mètres carrés, vous pouvez faire entrer un certain nombre de personnes. Si vous dites 8 mètres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous divisez par 2 le nombre de personnes que vous accueillez dans votre magasin.
Et ça, vous êtes prêt donc à le faire?
On est prêt à l'avancer pour les magasins qui ont une certaine taille, beaucoup plus difficile pour les toutes petites tailles, parce que il y a des magasins qui n'ont pas cette taille-là.
William Queberlé, quelle est la situation aujourd'hui de vos adhérents? Quels sont les chiffres dont vous disposez?
Elle est catastrophique, c'est-à-dire que on a aujourd'hui, et je parle des magasins qui ont fermé, hein, on parle bien de ces commerces-là, c'est-à-dire qu'ils ont eu déjà le premier confinement qui aujourd'hui fait qu'ils ont perdu grosso modo 20% pendant le confinement, une trentaine de pourcents de chiffre d'affaires. Là, aujourd'hui, on arrive à 20% à fin octobre, mais il faut comprendre que le mois de novembre et le mois de décembre sont les mois les plus importants pour beaucoup d'entre eux, et ça peut correspondre jusque 40% dans le jouet, une trentaine de pourcents pour le vêtement, la parfumerie, par exemple. C'est des périodes qui sont très, très importantes pour les commerçants.
Il y a déjà des magasins qui ont dû mettre la clé sous la porte ?
Nous pensons que par secteur, il peut y avoir jusqu'à 20% de commerces qui pourraient baisser le rideau définitivement. Et c'est pour ça que nous avons lancé un appel aujourd'hui en disant « attention, là, nous sommes aujourd'hui dans un risque économique avec des dégâts également sociaux, avec l'ensemble des personnels qui sont occupés dans ces magasins. » C'est pour ça que nous avons lancé ce cri d'alerte.
William Queberlé, président du Conseil du commerce de France, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. On l'a appris aujourd'hui, Emmanuel Macron prendra la parole en milieu de semaine prochaine. La date précise n'est pas encore arrêtée. Le président devrait annoncer les étapes et les modalités d'un déconfinement progressif. Reste à savoir si ce déconfinement progressif entraînera la réouverture rapide des commerces et la reprise des cultes. Autre inconnu, les possibilités de déplacement pour les fêtes. La semaine dernière, Jean Castex avait expliqué que l'attestation de déplacement resterait en vigueur au-delà du 1er décembre. La France a dépassé ce soir la barre des 2 millions de cas confirmés de Covid-19. Il y a eu plus de 45 000 nouvelles contaminations dans les dernières 24 heures. Le nombre de morts dépasse les 46 000, avec 437 nouveaux décès à l'hôpital depuis hier. Jusqu'au bout, Donald Trump entend bien appliquer sa politique à la Maison-Blanche. Le président, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite, a décidé de retirer partiellement les troupes américaines déployées en Irak et en Afghanistan. C'est le Pentagone qui l'annonce ce soir. 2500 soldats vont rentrer à la maison. Grégory Phillips, ce retrait doit intervenir 5 jours avant l'investiture de Joe Biden.
Le patron par intérim du Pentagone, Christopher Miller, confirme qu'au plus tard, le 15 janvier, il ne restera plus en Afghanistan que 2500 soldats américains, même contingent en Irak après le retour aux États-Unis de 2500 hommes et femmes. La décision vient directement de la Maison-Blanche, de Donald Trump, qui début octobre encore sur Twitter plaidait pour un retrait total de ces deux pays et qui, durant toute la campagne électorale, a promis le retour des boys à la maison et la fin de ces guerres coûteuses et interminables. Il s'agit donc d'une demi-mesure cohérente, a dit le secrétaire provisoire à la Défense, avec nos plans établis et notre stratégie. Son prédécesseur, Mark Esper, avait été brutalement limogé il y a 8 jours. Lui qui pensait que le temps n'était pas encore venu pour un départ d'Afghanistan et d'Irak. Selon plusieurs experts militaires cités par les médias, une diminution du nombre de soldats américains dans la région risque de mettre en danger les troupes qui resteront sur zone.
Grégory Phillips, notre correspondant à Washington. La menace terroriste contre les ressortissants français à l'étranger s'est accrue après l'assassinat de Samuel Paty. Lors de l'hommage à l'enseignant décapité, Emmanuel Macron avait affirmé solennellement que la France ne renoncerait pas aux caricatures. Depuis, les manifestations anti-françaises se sont multipliées dans les pays musulmans. Éric Biegala, Paris, annonce de nouvelles mesures pour protéger les représentations françaises à l'étranger.
Des mesures pour renforcer la sécurité des emprises diplomatiques françaises, ambassades, consulats ou autres, ont été prises sur 10 postes différents ces dernières semaines, suite aux tensions autour des caricatures. Mais, souligne-t-on du côté du Quai d'Orsay, les menaces contre la France sont dites ubiquitaires. Potentiellement, elles peuvent viser tout le monde et partout dans le monde. C'est particulièrement le cas des actions les plus violentes de type terroriste. Un pays considéré comme ayant un bas niveau de risque terroriste peut parfaitement être la cible d'un attentat, souligne-t-on encore de sources diplomatiques, et de rappeler l'attaque de Vienne au début du mois où un sympathisant de l'État islamique avait ouvert le feu en pleine rue faisant 4 morts. Les groupes islamistes les plus violents, type Daesh ou Al-Qaïda, demeurent actifs et des opérations de repérage par leurs militants de cibles françaises, en prise diplomatique par exemple, ont encore été signalées ces dernières semaines également. En revanche, les actions visant les intérêts français, comme les appels au boycott de produits français, semblent être sur la décrue, remarque-t-on encore au Quai d'Orsay. Quant aux manifestations de rue, elles ont quasiment disparu. Au Pakistan, le parti islamiste Tariq El-Abaik a mis un terme ce mardi à 48 heures de manifestations contre la France, après avoir obtenu la libération de ses militants arrêtés dans des affrontements avec la police ces derniers jours.
Eric Biegala, merci. Un mot du temps demain, perturbé et légèrement pluvieux à l'ouest de la Bretagne à la Normandie, en passant par les Pays de la Loire. Partout ailleurs, le soleil s'imposera après les brumes du matin. Les températures minimales seront comprises entre 2 et 10 degrés selon les régions. L'après-midi, la douceur triomphera de 11 à 25 degrés du nord-est au pied des Pyrénées. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez. 22h.